choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en travaillant, Némi, pour vous. Je me suis régalée, franchement. J'ai vraiment pris goût. C'est un passage de la Bible qui est absolument fantastique. Comme disait André, c'est quelque chose où on peut se retrouver très facilement. Vous savez, quand on reconstruit, que ce soit nos vies, nos familles ou quelque chose d'autre, on voit les obstacles que le diable va mettre sur notre route. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes que Néhémie. La tactique du diable ne change pas beaucoup. Il a une variété de tactiques, mais il reproduit souvent les mêmes. Et on a tous passé par ce genre d'opposition par lesquelles Néhémie a passé. Des déceptions, de trahison, etc. Donc, c'est très, très enrichissant. Alors, je vais juste reprendre ce qu'on avait dit la dernière fois très rapidement pour ceux qui n'étaient pas là les autres fois, que vous puissiez vous y retrouver à peu près. Donc, Néhémie est venu, il avait eu l'autorisation du roi de Perse où le peuple était déporté pour venir reconstruire Jérusalem. On est en 400 et quelques avant Jésus-Christ. Et le travail a finalement bien marché, les murailles ont fini par être construites. Au point où on en est aujourd'hui, je crois que les portes n'étaient pas encore posées, mais les murailles étaient terminées, ce qui avait été quand même un très gros travail, il y avait 3-4 kilomètres de murailles. C'est pas tout à fait terminé quand ils découvrent une crise sociale épouvantable. Certains juifs avaient été vendus comme esclaves parce qu'ils n'avaient plus les moyens de rembourser leurs dettes, et c'était quand même pas normal. En plus, c'était interdit. D'autres ont dû hypothéquer tous leurs champs, tous leurs biens pour pouvoir payer leurs impôts au roi de Perse, etc. Bref, il y a une injustice sociale terrible. Il y a des gens juifs qui s'enrichissent sur le dos des juifs pauvres. Donc, c'est quand même innommable. Néhémie est extrêmement fâché. Il est fatigué. On se rappelle qu'il était en lutte avec l'extérieur. Il doit aussi lutter contre le découragement. Toujours sur un pied de guerre parce qu'il y a une hostilité extérieure très forte, une réelle méfiance aussi des pièges que l'ennemi peut lui tendre. Il est soucieux de la sécurité du peuple, et en plus voilà que maintenant il découvre cette injustice sociale énorme, monstrueuse et complètement en opposition à la loi. Et on avait dit il aurait pu laisser exploser sa colère humaine. Il y avait de quoi. Vraiment, il aurait pu dire, ça suffit, on a assez d'ennuis comme ça, et puis passer ses nerfs sur les riches, sur les notables. Il aurait pu les traiter de tous les noms, ils étaient égoïstes, injustes, cruels, ingrats, enfin bon, des vrais rapaces. Mais là, il y a un verset très important qu'on avait étudié qui dit, son cœur décide pour lui. Mon cœur décida pour moi, hein. Ça c'est la traduction littérale, ça a été traduit par je résolus de. Mais quelque part, oui, c'est ce cœur, hein, cette décision intérieure. Vous savez, le cœur, pour les Hébreux, c'est beaucoup plus que les sentiments. On fait partie, mais c'est aussi son intelligence, le lieu de la décision, du courage, et bien sûr aussi du sentiment. Il ne va pas laisser exploser ses émotions. C'est ça qu'on a développé la dernière fois. Il va utiliser aussi son intelligence, son discernement et sa sagesse que Dieu lui a donné. Et il va décider de reprendre les puissants. C'était risqué, parce que c'est quand même eux qui avaient financé une partie de la muraille. Donc c'était extrêmement risqué. Mais il a décidé de les reprendre, il peut pas tolérer ça. Et ça, c'est important, hein. La justice passe avant l'opinion que les autres ont de nous. Il risquait sa peau, il risquait sa réputation. Mais il a quand même fait passer la justice en premier. On a remarqué qu'il ne va pas les insulter, il les respecte. Et nous aussi, hein, on est appelé à respecter les gens qui sont injustes contre nous. Il va convoquer une assemblée, il respecte un côté officiel, légal. Et il va établir les fêtes, pas un procès d'intention. Ah oui, vous aviez l'intention de non. Les fêtes sont là. Et il va aligner les fêtes, tout simplement. Vous vendez vos frères, alors que nous, on les a rachetés, etc. Et puis, devant cette décision de clarté, de droit, d'autorité, il ne trouve rien à répondre. Alors, il va continuer. Il les resitue par rapport à Dieu. Oui, c'est important. D'abord à Dieu et à sa loi. Vous n'agissez pas bien par rapport à la loi de Moïse. Deuxièmement, il va à la racine. Est-ce que vous devriez pas vivre dans la crainte de l'Éternel? La racine du problème, c'est ça. Est-ce qu'on a la crainte de Dieu ou on ne l'a pas? Et puis, il va aussi leur parler du témoignage par rapport aux autres nations. Vous ne voulez quand même pas qu'on soit outragé, qu'on soit un scandale devant nos ennemis, devant les autres nations. Donc, voyez, il est resté dans le respect, la légalité, resté sur les fêtes, face à la loi, face à Dieu, il cherche la racine du problème, il va pas développer toutes les branches et les feuilles du problème, il cherche la racine, et il leur montre les conséquences que le diable, bien sûr, quand il y a une injustice, il nous cache les conséquences. La prise qu'on donne à l'ennemi, on avait développé ça, le diable qui trouve des terrains d'atterrissage dans notre vie quand on est dans l'injustice. Et en tout dernier, ça c'est symptomatique de Néhémie, il va donner son propre exemple. C'est bien. Il faut aussi le dire. Mais c'est bien, il l'a pas mis en premier. Et il dit, moi, j'ai prêté de l'argent et du blé aussi. Et je réclame pas à être remboursé. Moi, j'ai aussi, et mes frères, on a aussi racheté des esclaves. Donc, on va pas quand même les remettre en esclavage. Et puis, il propose une solution en s'y associant. Remettons, non pas remettez, mais remettons-leur leurs dettes et rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, plus les intérêts. Il se met dedans. Il donne l'exemple. Et la réaction incroyable, moi je trouve, de ces gens, surtout quand on sait après qu'il y en a beaucoup qui étaient de mèche avec les ennemis, réaction absolument positive. En fait, ils n'ont pas trouvé prise dans ce qu'il a dit. Et vous savez, dans les situations d'injustice, souvent, malheureusement, on est humain, par notre colère, par nos exagérations, ou voilà, on donne prise à l'ennemi. Et là, quand on regarde comment il a procédé, on voit que l'ennemi n'avait aucune prise. Il pouvait rien lui reprocher. Donc, nous les rendrons, nous ne demandons rien, nous ferons ce que tu dis. Waouh. Mais Néhémie, il n'est pas fou. Il savait que c'était une parole donnée à un homme. Et il a dit, bon, maintenant, on va faire venir les prêtres et vous allez jurer ça devant Dieu en présence des prêtres. Ah ah, un serment. Et il va ajouter même une parole prophétique en secouant son manteau pour dire, si vous ne respectez pas votre parole, que Dieu vous secoue, comme je secoue mon manteau, c'est-à-dire vous disperse, etc. Le peuple a tenu parole. Et ça, c'est quand même formidable. Moi, quand je lisais ça, que j'essayais de me représenter la situation, j'ai trouvé que c'était très beau. Voilà, on en était à peu près là. On arrive au chapitre 6, où il n'y a plus de brèche dans le mur, mais les battants des portes ne sont pas encore posés. Donc, vous voyez, ouh. Et là, on va voir que 4 fois, les ennemis d'Israël, les ennemis de Jérusalem, envoient un message à Néhémie pour l'inviter à venir causer. Bizarre, hein. Ils lui en ont fait voir de toutes les couleurs depuis des mois. Ça a duré des mois, hein. Et puis voilà que maintenant, ils veulent discuter avec Néhémie. Chapitre 4. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Ashdodites furent très fâchés d'apprendre que la réparation des murailles de Jérusalem avançait, qu'on commençait à reboucher les brèches. Non, ça, je suis sur le chapitre 4, pardon. Lorsque c'est le 6, Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. En ce temps-là, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Sanballat et Geshem m'envoyèrent ce message. « Viens, rencontrons-nous à Képhirim dans la vallée d'Ono. » Ils se préparaient à me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. « J'ai beaucoup de travail à faire. Je ne peux pas descendre. Pourquoi le travail serait-il interrompu pendant que je le quitterais pour descendre vers vous ?» Ils envoyèrent 4 fois le même message et je leur donnais la même réponse. « Ouais, ils sont persévérants, les gars. Hein ? » 4 fois. « Viens discuter avec nous. » Alors pourquoi? Parce qu'il ne reste plus qu'à poser les portes, c'est donc leur dernière chance de pénétrer dans la ville sans en faire le siège. Parce que faire le siège d'une ville qui appartenait au même roi, ça l'afficherait moche, franchement. Donc ils essayaient plutôt de travailler par la ruse. À quel endroit ils veulent le rencontrer? Alors la vallée d'Ono, c'est à mi-chemin entre la Samarie et Jérusalem, ça fait à peu près une journée de marche, 32 kilomètres. Et c'est à la frontière de 2 états hostiles, c'est quand même louche, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de bavarder avec Néhémie justement à cet endroit-là? Mais si on réfléchit un tout petit peu, surtout si on veut être politiquement correct, apparemment la proposition peut sembler logique et raisonnable. Les ennemis, c'était une façon, en invitant Néhémie, il se moquait plus de lui là apparemment, c'était une façon de reconnaître, bon écoute, t'as réussi, vous avez réussi à rebâtir votre ville. Et quand on a commencé à réussir à construire sa vie ou ce qu'on est en train de reconstruire, méfiez-vous, c'est souvent une tactique de l'ennemi. Quand il voit qu'on y arrive, hein, on a fait le torrent qui purifie, on a réglé des choses dans notre vie, on a remis des choses en place, eh ben, il va arrêter la moquerie et puis il va passer à autre chose. Et l'autre chose là, c'est viens discuter avec nous. Et ça peut sembler logique parce que il fallait établir des modalités de coexistence pacifique, on dirait aujourd'hui. Bon, bah, vous avez réussi, hein, voilà, maintenant vous êtes une ville bien constituée, ta ta ta, vos murailles sont relevées. Eh ben, écoutez, maintenant, il faut mieux qu'on soit amis, hein. C'est logique. Les Juifs, par ailleurs, manquaient d'argent et de nourriture. Ils étaient épuisés. Il y avait de quoi. Et la trêve, c'était vraiment bienvenue pour mettre fin au harcèlement qu'ils avaient subi. allez, on fait une trêve. Maintenant, on va être amis, hein. Vous savez, le diable, il fait ça parfois. Hein. Il vous enquiquine, puis au bout d'un moment, il voit que ça marche pas. Donc, on fait ami-ami, hein. On fait une trêve. Rien de pire. Quand l'ennemi cherche à faire la paix sans qu'il y ait de repentance, c'est dangereux. C'est ce qu'on va voir après. En réalité, Néhémie était conscient qu'il voulait lui faire du mal. Comment est-ce qu'il le savait, Néhémie? Est-ce qu'il avait eu des informations? Peut-être. Son discernement? Peut-être. Mais surtout, il avait une bonne connaissance de qui sont ses ennemis. Et c'est important qu'on sache qui est notre ennemi. Non pas qu'on s'informe sur tout ce qui est occulte, bien sûr que non. Mais on sache comment il procède. Qu'on lise dans la parole de Dieu comment il procède. Pour savoir comment il va procéder avec nous. C'est important de savoir qui est notre ennemi. La Bible dit, un léopard peut-il changer ses taches? Ah, pas évident ça. Un léopard peut-il changer ses taches? Et l'ennemi peut pas changer. On le sait, dans la parole de Dieu, c'est clair. Ces gens avaient fait leurs preuves dans le passé. Ils avaient utilisé l'intimidation, la moquerie, les menaces, les calomnies. Et jamais ils s'étaient repentis. Ah, il est là le point central. Ils s'étaient jamais repentis. Alors même si c'était politiquement correct de faire la paix avec lui, fallait quand même être conscient. Il s'était jamais repenti. La paix entre l'homme et Dieu est basée sur la repentance. De même, la paix réelle entre des humains est forcément basée sur la repentance. S'il n'y a pas repentance, on peut pardonner. Nous, en tant que chrétiens, on est appelés à le faire. On ne peut pas rétablir des relations sécurisées, c'est évident. Donc attention à la lassitude. Attention à la lassitude. Quand on est fatigué de subir des oppositions, fatigué de subir les pressions du monde, du diable et de toutes sortes de problèmes auxquels on est confronté, ce n'est pas une raison pour se laisser détourner de ce que Dieu nous demande. Oh Seigneur, j'en ai marre. Ce harcèlement, ça, finalement, je vais faire ce qu'ils veulent. Je sais pas comment il a tenu, mais il a tenu bon. Céder à l'ennemi, car il nous a eu à l'usure. Non. Ne nous laissons pas avoir à l'usure. Sinon, on aura une paix factice et on va rentrer dans ce qu'André dit toujours, hein, l'inhibition de l'action. On va plus rien faire, on va devenir passif et puis allez, on fait la paix parce qu'on peut plus rien faire d'autre. Non, on a la prière et il faut savoir que l'ennemi, il va pas changer, le léopard va pas changer ses tâches. S'il n'y a pas eu repentance, c'est évident qu'il va continuer la même tactique. Donc, Néhémie savait qui était son ennemi. Néhémie n'est pas naïf. Il va flairer la trahison, mais il va montrer beaucoup de sagesse. Il n'a pas envoyé un messager pour dire, oh, vous savez, hein, moi, je me fais pas d'illusions sur vous, les gars, hein, vous êtes des traîtres, vous êtes des ennemis, etc. Moi, il n'est pas question que je vienne causer avec vous. Il a de la sagesse. Il ne va pas justifier son refus par ses soupçons. Sinon, il va être accusé de faire un procès d'intention. Nos soupçons, ils pèsent pas dans la balance. Donc, il va répondre par une autre vérité. Et je crois que ça nous enseigne aussi, quand on est dans des situations comme celle de Néhémie, il ne s'agit pas de mentir pour s'en sortir. Il n'y a pas de mensonge pieux dans la parole de Dieu. Il faut rester dans la vérité. Donc, il va dire une autre vérité qui est énorme. C'est « j'ai trop de travail, j'ai beaucoup trop de travail à faire, je ne peux pas descendre. Pourquoi le travail serait-il interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous ?» Enfin, vous rendez compte le travail qu'il y a. Et... En général, on peut pas exprimer ses soupçons, sinon on est accusé de procès d'intention. On a aussi ce passage dans Timothée qui dit « évite les discussions inutiles ». C'était pas la peine de discuter avec l'ennemi. On ne discute pas avec l'ennemi. Jésus n'a jamais discuté avec l'ennemi. Regardez même au moment de sa crucifixion, il a très peu parlé, hein, ou pas du tout. Ça ne sert à rien. Dieu ne nous demande pas de foncer tout droit dans la bataille avec les gens qui s'opposent à nous, surtout s'ils sont rusés. Demandons la sagesse de Dieu pour rester par contre dans la vérité, sans tomber dans les pièges de l'ennemi. Et là, je crois que c'est important, il nous donne une bonne leçon, Néhémie, quand on a ce type d'opposition. Il ne s'agit pas de sortir ses soupçons, il s'agit simplement de dire la vérité. Il y a peut-être deux ou trois vérités, on dit celles qui passent, mais on reste dans la vérité. Et c'est sûr que c'était une vérité solide, hein. Il y avait du boulot. Donc même à ses ennemis jurés, il ne va pas mentir pour s'en sortir, il reste dans la vérité, le temps presse, la sécurité de tous est en cause, on ne peut pas arrêter les travaux, ça augmenterait le découragement des gens. Le peuple a besoin que Néhémie soit là, pour être encouragé et motivé. En passant, si Néhémie est l'image du Saint-Esprit, comme on l'a déjà dit, ça nous encourage. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas tomber, l'ennemi peut nous harceler, Saint-Esprit, il ne va pas quitter le chantier. Il est en train de nous reconstruire, il est en train de reconstruire la situation dans laquelle on est. Il ne va pas nous laisser tomber pour aller discuter avec l'ennemi. Amen. Hein, on n'est pas tout seul, il va jamais nous laisser tomber. C'est une bonne image. Parce que le travail à faire, c'est ce qui compte pour lui. Le travail à faire dans notre reconstruction. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous enverrai le consolateur. Il est avantageux que je m'en aille, disait Jésus. Le Saint-Esprit est avec nous. Il collabore avec nous pour nous reconstruire et reconstruire nos situations. Eh bien, ils remettent ça une cinquième fois. Comme ils ont reçu quatre fois une réponse négative, c'est la guerre d'usure, ils recommencent. Et Néhémie a répété quatre fois la même chose, mais ils remettent ça une cinquième fois. Mais cette fois-ci, ils disent, on va changer de stratégie. Vous savez, l'ennemi, quand il voit que ça marche pas, l'usure n'a pas marché, on accompagne l'invitation personnelle d'une lettre ouverte. De nouveau, c'est l'accusation de rébellion. Vous voyez comme quoi, ils étaient pas sincères du tout. Hein. Quand ils voient que ça marche pas, accusation de rébellion. Mais cette fois-ci, ils ajoutent pas mal de détails. Parmi les nations alentour, un certain Gachemou a parlé. Hein, Gachemou affirme que toi et les Judéens vous préparez à vous rebeller. C'est pour ça que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même désigné des prophètes pour proclamer à Jérusalem à ton sujet, il y a un roi en Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et discutons. Bien pourquoi? Il recommence. Mais alors là, il y a un point qui est délicat et qu'on vit très mal quand on est dans ce genre de situation. Bon, les rumeurs, il y en a toujours. On l'accuse encore de rébellion, c'est pas nouveau. On lui accuse de rebâtir la muraille dans l'intention de se rebeller. Mais surtout, ce qui est dur, c'est on tord le sens de ses actions et de ses paroles. Et si ça vous est arrivé dans le travail ou dans d'autres occasions qu'on torde le sens de vos paroles, ça c'est dur. Très difficile de se défendre quand on tord le sens de ce qu'on dit. Et on dit, bah voilà, la muraille, pour Néhémie, c'était évident, hein, la muraille, c'était la sécurité des gens, c'était la sécurité des maisons, du temple. Pour les ennemis, c'est, ah, on remonte les murailles pour préparer une rébellion. Hein? Il nous faut des bonnes murailles, hein, pour se défendre et pour attaquer les autres, etc. Comme ça, on peut se réfugier dans les murailles. Et je me souviens, c'est très dur à vivre. Je me souviens quand on a bâti cette église, il y a des gens qui ont eu la malheureuse idée de tordre effectivement nos intentions. Et ça, c'était très désagréable. Après 7 ans de travaux, on préparait l'inauguration. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui étaient là à cette époque, mais voilà. Et on s'est dit, il faut que les gens d'Aubergenville et d'Elisabethville sachent qu'il y a une église ici. Donc, on a préparé des invitations aux maires, aux adjoints à la culture, aux députés, enfin, on voulait vraiment que les gens sachent qu'il y avait une église évangélique ici et qu'ils puissent venir à l'inauguration. C'est un temps fort où on peut partager l'évangile avec beaucoup de gens. Et je me souviens que nous, on était en cette optique, ouais, l'architecte va venir, le maire va être là, c'est formidable, ils vont voir, on va faire témoigner, on avait des amis américains qui étaient là pour témoigner aussi, enfin, c'est génial. Et la chose a été tordue, vous faites ça par orgueil. Ah, ça m'était même pas venu à l'esprit. Mais effectivement, le problème, c'est, ça aurait pu être ça. Ça aurait pu. On aurait pu le faire par orgueil, pour se faire bien voir, pour montrer qu'on était très doué, bien qu'après 7 ans de travaux, bon, très, très lumineux quand même, hein, on avait peiné. Hein. Mais bon, ça aurait pu. Et c'est ça qui est dur, c'est quand vous avez fait quelque chose avec les meilleures intentions du monde, comme Néhémie, et qu'on tord les choses. Comment faire? C'est possible. On pourrait croire que Néhémie avait effectivement installé bien Jérusalem pour pouvoir se révolter contre le roi de Perse. D'ailleurs, hein, si vous lisez, c'est un livre apocryphe, mais les Maccabées, on voit que, bon, ils se sont révoltés. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même désigné des prophètes pour proclamer à Jérusalem, il y a un roi en Juda. Là, ils en rajoutent. Les peuples autour savaient très bien que les Juifs attendaient le Messie. Vraisemblance. Ils devaient restaurer le royaume de David, c'était dans les prophéties. Vraisemblance. Quoi faire quand ça a l'air d'être ça, mais que c'est pas ça? Néhémie, en tant que type de Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui restaurait, rachète, prend soin, se sacrifie, assure la sécurité, conduit, soutient. Et l'attaque contre lui s'appuie sur la vraisemblance. sur des prophéties que Tobija prétend avoir entendues. Mais tout le monde savait qu'ils attendaient le Messie. Et dans ce cas, l'accusation de se présenter comme le Messie, elle tenait un peu debout. Il y avait déjà eu des faux Messies. C'est dur. On remet en question l'appel religieux et le rôle de Néhémie. On lui prête des mauvaises intentions religieuses et politiques pour le séparer des juifs croyants et du gouvernement perse. Là, il gagne sur tous les tableaux. Vous voyez là, il avait réfléchi, hein, le Tobija, là. C'est lui, hein, la cinquième colonne, qui se prétendait juif, qui avait plein de relations avec les juifs, et c'est lui qui alimentait ça. Le gouvernement perse avait nommé Néhémie gouverneur, il lui avait fait confiance. Le désigner comme un ennemi des nations environnantes pour le dénoncer au roi, c'était une bonne tactique. Un crime de haute trahison. Alors ça devient difficile quand les attaques de l'ennemi jouent sur la vraisemblance. C'est dur. Parce que c'est difficile de se défendre quand les apparences sont contre nous. Ah, c'est comme tous les films policiers, hein, je vous apprends rien, vous en avez déjà regardé. Hein, on met le revolver dans la main du gars, il est là complètement hébété, ben, c'est forcément lui. Voilà. Les apparences, la vraisemblance, ça pourrait être vrai. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous chrétiens, dans ce cas? Qu'est-ce qu'a fait Néhémie? Notre seul refuge, c'est vraiment de nous confier en Dieu, de remettre nos intentions à la lumière de sa parole. Ça vaut toujours la peine d'examiner son cœur et de dire, est-ce que je fais ça par orgueil, est-ce que, etc. Ça vaut toujours la peine. Vous savez, quand vos ennemis vous accusent de quelque chose, la première chose à faire, c'est de se remettre en question devant le Seigneur, tranquillos. Seigneur, est-ce que tu crois que c'est vrai? Si jamais c'est vrai, ça nous permet de régler le problème. Puis si c'est pas vrai, le Seigneur s'en occupera. Mais ça vaut le coup de se remettre toujours en question. Remettre nos intentions à la lumière de sa parole, s'examiner soi-même et faire la clarté. Et surtout, et ça c'est dur, refuser la peur et l'intimidation. Ça vous est facile, vous, de refuser la peur et l'intimidation? C'est pas facile, moi, je trouve. Quand on est comme ça, harcelé par l'ennemi, refuser la peur et l'intimidation, et c'est pourtant ça qu'il faut faire. Et une autre chose, c'est refuser le rapprochement. Parce que vous voyez, là, ils lui ont fait bien peur. Ah, les apparences sont contre toi, Néhémie. Et puis après, viens discuter avec nous. Il a refusé le rapprochement. Pourquoi? Il n'était pas fou. Il savait que s'il allait discuter avec eux, d'abord, c'était risqué. Et en plus, ça pouvait être interprété comme une tentative de collaboration avec les gouverneurs autour pour se révolter. Ah, il avait réfléchi, Némi. Vous savez, Dieu ne nous interdit pas de nous servir de notre cerveau. Néhémie avait réfléchi. Il s'est dit, si je vais discuter avec eux, alors là, on peut m'accuser de sédition. Effectivement, ils vont dire que je suis en train de les remonter contre le roi de Perse. Par ailleurs, il a réfléchi. Depuis quand Sambala commencerait-il à s'intéresser au bien-être des Juifs et à la sécurité de Néhémie? C'était une ruse un peu épaisse quand même. Néhémie a réfléchi à tout ça et il a compris qu'il s'agissait d'une ruse de plus. Et le fait qu'il y ait une lettre non scellée, que n'importe qui, une lettre ouverte, que tout le monde pouvait lire en chemin, pour mieux diffuser la rumeur. À côté de ça, Sambala demandait un entretien privé, en secret. Bon, il a réfléchi, il s'est servi aussi de son cerveau. Hein. Les choses sont apparues clairement à Néhémie, il n'hésite pas à dire. Et là, je trouve qu'il a eu beaucoup de courage. Ce genre de rumeur n'existe pas. C'est toi qui les as inventées. Ça, c'est refuser l'intimidation. Hein. Moi, je trouve courageux. Hein. C'est la vérité, mais il fallait avoir le courage de le dire. C'était des gens puissants, hein, faut pas oublier. On aimerait bien ressembler à Néhémie, malgré la fatigue, mettons-nous à sa place, le découragement des uns et des autres, les injustices qu'il vient de gérer, l'opposition constante, les moqueries, les intimidations, les menaces, les calomnies, le harcèlement, il tient bon, il voit clair, ça c'est pas facile non plus, il ne se laisse pas attirer dans le piège et il crie à Dieu. Et là, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il va crier à Dieu? Moi, je sais ce que j'aurais crié. Ça suffit! J'en ai marre! Reprends-moi! Non. Vous avez remarqué qu'est-ce qu'il va crier à Dieu? Donne-moi du courage. Oh. Moi, j'aurais pas eu envie de demander du courage. Moi, j'aurais fui ventre à terre. Donne-moi du courage. Vous vous souvenez de ce verset des apôtres? C'était pareil, hein. Donne-nous de l'assurance. Donne-nous de l'assurance. Enfin, la dernière épreuve avant la fin de la construction, donc ça, ils en sont restés là, vous voyez comme quoi, hein, c'était un ballon de baudruche encore une fois. La dernière épreuve avant la fin de la construction, ils vont soudoyer un prophète, ils vont le payer pour pour faire pécher Néhémie. Ah, ça c'est fort. Hein. Ça c'est fort. Ils vont le payer. Il faut le faire. Néhémie 6, verset 11 et les suivants. On va le lire rapidement. Un petit peu avant. Tous ces gens voulaient nous faire peur et se disaient, ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. Vous voyez, quand vous reconstruisez, que ce soit votre vie, que ce soit autre chose, travail, association, église, quand vous reconstruisez quelque chose, l'idée du diable, c'est de vous faire peur, de vous faire perdre courage pour que l'ouvrage ne se fasse pas. Voilà. Que ce soit un couple aussi, hein, c'est pas évident. Ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. Et c'est là qu'il dit, maintenant, donne-moi du courage. Et voilà. Je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaïa, fils de Métabéel. Il s'était enfermé. Et il dit, allons ensemble à la maison de Dieu, à l'intérieur du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Wow, un prophète! Et s'il dit la vérité? Là, c'était fort quand même, hein? C'est pour ça la Bible dit, éprouvez les prophéties, hein? Prenez pas toujours comme un argent comptant ce qu'une prophétie vous dit. C'est la Bible qui le dit, hein? Et voilà sa réponse. Je pense qu'il a dû réfléchir un tout petit peu avant, mais un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Pourquoi est-ce qu'il a pu répondre ça? Je pense que c'est parce que pour lui, la priorité, c'était sa relation avec Dieu. Avant sa vie. Une partie des prêtres voulait peut-être le faire roi. C'est pas impossible. C'est pas impossible, d'après certains commentateurs. Les rumeurs avaient peut-être quelques fondements, mais c'est pas sûr. Mais le piège, c'était vraiment de le saisir et de le tuer. Parce qu'il aurait été coupable d'un sacrilège. Un homme ne rentrait pas comme ça dans le temple. Surtout qu'on suppose qu'il était eunuque, donc encore moins, il avait encore moins le droit. Néhémie n'était pas prêtre, c'était interdit pour lui de rentrer dans l'enceinte du temple. Et s'il n'avait pas été tué, il avait perdu non pas la vie, mais sa réputation, c'était guère mieux. Il était respecté de tous, il avait évité tous les pièges. L'intimidation, les calomnies, etc. Il avait réussi à tout éviter. Mais là, ce dernier point, c'était risqué. On allait lui faire perdre ou sa vie ou sa réputation. Mais vous savez, c'est important la réputation. Néhémie ne va pas se laisser aveugler par la peur. Vous savez que l'orgueil rend aveugle, mais la peur aussi. Dans une situation de peur, il faut toujours se méfier. Ça rend aveugle. On voit pas les moyens de s'en sortir. On voit pas la porte même. Ça me fait penser à cette biche qui était rentrée dans notre terrain. Et puis, avec les enfants, le matin, on lui avait ouvert le portail en haut, qui donne dans la forêt. Donc, c'était pas compliqué. Il suffisait de passer par le portail. Il est énorme. Le tracteur peut y passer. Ouais. Et on lui a ouvert grand pour qu'elle puisse sortir. Et on faisait un peu de bruit pour lui faire peur pour qu'elle sorte. Cette grosse bête, elle rentre dans le portail. C'était bon, on n'avait pas pu le fermer complètement. Elle rentre dedans au lieu de faire le tour pour sortir. Et on a eu un mal à lui montrer la porte. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur. Et ça, c'est nous. Quand on est dans la peur, le diable a réussi à nous ficher une super trouille. On voit même plus la porte ouverte. Hein? Donc attention, la peur rend aveugle. Et c'est ça qu'il voulait. Hein? Mais Néhémie va pas se laisser aveugler par la peur. Il garde ses principes. Sa relation avec Dieu avant tout. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire dans les situations difficiles. Ma relation avec Dieu avant tout. Et la première chose, Dieu ne demande jamais une chose contraire à sa parole. Dieu ne demande jamais une chose contraire à sa parole. Et vous savez que le diable, il est très malin pour faire désobéir les chrétiens. Même des chrétiens de longue date. Même des chrétiens très affermis, qui connaissent bien leur Bible. Vous savez, il a une astuce qui marche malheureusement souvent. Mais pour toi, c'est pas pareil. C'est un cas particulier. T'es dans une situation très spéciale. T'as le droit de désobéir. T'as le droit de mentir dans ce cas-là. T'as le droit de faire quelque chose qui est interdit. Pour toi, c'est différent. C'est pour la bonne cause. C'est toujours comme ça que ça marche. Et avec tout le monde. Avec tout le monde. Méfiez-vous. Quand vous commencez à avoir ce genre de raisonnement, vous savez d'où ça vient. En tant que chef du peuple, il donne un exemple de courage. Il refuse quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Dans le principe, c'est déjà non. Il reconnaît que Shemaïa est un faux prophète au service de Sanballat. Il va le dire, je crois, au verset 14. Souviens-toi, mon Dieu, de Tobija, de Sanballat et de leurs œuvres. et de Noadia la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à me faire peur. Et il dit aussi, je n'entrerai pas, je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prononcé sur moi cette parole prophétique parce que Tobija et Sambala l'avaient soudoyé. Il l'avait soudoyé ainsi pour que j'ai peur, que je suive son avis et que je pêche. Quand le diable peut rien faire de vous, il cherche à vous faire pécher, à vous faire désobéir. Parce que alors là, évidemment, ça vous coupe de la relation avec Dieu. Ça vous enlève votre bouée de sauvetage. Ça marche. Il m'aurait alors fait une mauvaise réputation pour me déshonorer. Ça marche, ça. On sait bien que les faux prophètes ont souvent été utilisés dans la Bible. Je passe, j'avais pris quelques références, mais bon, c'est pas le sujet là. Souvent, le diable aussi va dire attention au retour de bâton. Si tu défends la cause de l'opprimé, si tu reconstruis la ville, les murailles, si tu es en danger, tu as beaucoup d'opposition. Tu vas perdre des choses. Dieu ne va pas te protéger. Moi, j'ai la solution. Sois ami avec moi. Écoute-moi. Suis mes conseils. Vous savez, le diable, il procède comme ça aussi de temps en temps. Rapproche-toi de moi. C'est ça qu'il a fait là. Ça vous rappelle pas, pour ceux qui aiment bien les dessins animés ou les films de Walt Disney, comme moi, ça ne vous rappelle pas le livre de la jungle, là, je crois. Fais-moi confiance. C'est toujours comme ça que ça marche. À chaque fois que je vois ce truc, j'y pense. Le diable fonctionne comme ça. Fais-moi confiance. T'es un cas particulier. Et il va vous pousser à la faute pour vous déconsidérer, pour perdre votre réputation et surtout pour couper votre relation avec votre force, la source de votre force, avec Dieu. Parce que perdre sa réputation, c'est une chose, mais perdre la relation avec Dieu, ça c'est horrible. Horrible. Et perdre aussi sa relation avec le peuple. On arrive au... Donc, il s'est pas laissé faire, gloire à Dieu. Et on va vite résumer le reste du livre de Néhémie. Il y aurait énormément de choses à dire sur Néhémie. Mais je vais juste prendre quelques points qui m'ont frappé, moi. Peut-être à d'autres occasions, on pourra revenir sur le reste. Mais pour l'instant, j'ai juste noté dans les chapitres qui restent. Il nous reste là 6 chapitres. D'abord, au chapitre 7, versets 1 à 3. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, ça y est, c'est gagné. On nomma les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem. Homme supérieur à beaucoup. Par sa richesse, sa généalogie, son intelligence, par sa loyauté et sa crainte de Dieu. Ah, ça m'a frappé. Voilà les critères fondamentaux pour choisir. Choisir quoi? Ses amis, ses conjoints, ses associés. Les gens qui travaillent dans l'église aussi. Si on a la crainte de Dieu, tout est gagné. Pourquoi? Parce qu'on est capable de se repentir. On est capable de changer d'attitude à cause du Saint-Esprit. Si on a la crainte de Dieu, on est enseignable. On peut se corriger. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. On peut même être pire que les autres. Mais si on a la crainte de Dieu, on va se corriger. C'est pour ça que la chose fondamentale dans notre vie, la crainte de Dieu. Alors la crainte de Dieu, c'est pas la frousse, la peur bleue de Dieu. Hein. Ce serait embêtant. C'est le respect, l'amour et le respect. J'ai pas envie de lui déplaire. Je l'aime trop. J'ai pas envie de lui faire de la peine. J'ai pas envie de lui déplaire. Mais c'est ça la crainte de Dieu. Entre autres. Si on a la crainte de Dieu, on est capable de se repentir, de se corriger, on est enseignable et on est humble. Parce qu'on sait qui est Dieu et on sait qui nous sommes, nous. Et ça, c'est important. Vous savez, notre image de Dieu et l'image de soi, c'est quand même des choses qui gouvernent notre vie. Voilà. Des hommes remplis de loyauté ou de fidélité, suivant les traductions, et qui ont la crainte de Dieu. Ensuite, l'autre point que j'ai noté, une fois la muraille rebâtie et les portes posées, on va nommer portiers, chantres, lévites, on décide des horaires d'ouverture de la ville, pour la sécurité. Et j'ai remarqué que pour la sécurité, ils ouvrent les portes avant, enfin, il faut qu'il fasse bien jour, pas entre chien et loup, mais vraiment bien jour, et puis on établit une garde. Donc les portes ne sont ouvertes que pendant la lumière, le temps de lumière, luminosité. Et j'ai pensé à notre vie, puisque souvent dans l'étude de Néhémie, on a fait la comparaison entre cette ville et notre vie personnelle. Notre vie n'est pas ouverte n'importe quand et à n'importe quoi. Non. Même si c'est pas politiquement correct, notre vie n'est pas ouverte à n'importe quoi et n'importe quand. Dieu nous demande de mettre une garde. Et repenser à tous ces versets, garder son cœur plus que toute autre chose, garder sa bouche, garder ses yeux, mettre une garde. Une fois que ma vie est reconstruite, Tout n'est pas gagné-gagné, il faut continuer à mettre une garde. Et on n'ouvre pas les portes n'importe quand. Voilà pour cette comparaison qui m'avait frappée. Ensuite, il va établir un registre de notables et de magistrats et du peuple qui sont revenus de captivité et qui peuvent prouver leur généalogie. Alors, ça avait déjà commencé avec Esdras et ça va continuer. Et c'est là qu'on s'aperçoit de ce fameux Tobija, ami de l'ennemi Sambala, ennemi de Néhémie, ennemi de la ville de Jérusalem. Celui-là ne peut rien prouver, imaginez. Vous savez, tout ce qu'il a fait comme tracas, c'est ce bonhomme. Il ne peut pas prouver qu'il est du peuple de Dieu. Ah, pourtant, il a un nom juif, il a ses enfants, des noms juifs, il vit au milieu des juifs. Et on va s'apercevoir, si on lit le verset 17 du chapitre 6, « En ce temps-là, les notables de Juda adressaient beaucoup de lettres à Tobija. » Tiens. « Et les lettres de Tobija lui parvenaient. » Cinquième colonne, hein. Car beaucoup en Juda étaient liés à lui par serment, rien que ça. Parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Ara, et que son fils avait pris pour femme la fille de Meshulam, fils de Berekia, donc il était bien installé par ses relations familiales dans le peuple juif. Il disait même du bien de lui devant moi, il lui rapportait mes paroles, et Tobija envoyait des lettres pour me faire peur. Il était bien enraciné dans le peuple, et pourtant, rien ne prouvait qu'il était vraiment juif. Méfions-nous. Il n'avait pas l'ADN. Vous voyez ce que je veux dire par l'ADN ? Il n'avait pas l'ADN du peuple de Dieu. Mais il faisait tout comme. Il faisait tout comme. Ce qui explique pourquoi il avait une telle proximité avec les païens d'alentour, sa correspondance aussi avec les notables contre Néhémie. Attention aux gens qui se disent chrétiens et qui s'opposent aux efforts de reconstruction. Attention. Attention aux gens qui se disent chrétiens et qui se moquent des gens fidèles, qui se lient avec des gens hostiles à l'évangile, qui cherchent à discréditer la foi. Il y en avait autant de Néhémie, mais il y en aura toujours. Jésus, dans Matthieu 7, 15, parle des loups en vêtements de brebis. Alors, faut pas en voir partout non plus, hein. On a tous nos défauts, il n'y a pas de chrétien parfait. C'est vrai, hein. Mais ça existe quand même. Ça existe quand même. Les loups en vêtements de brebis. Des gens qui ont tout comme Tobija. Le nom. Je sais plus ce que ça veut dire exactement, Tobija. C'est l'éternel, béni, ou je sais pas. Je l'ai su, je vous l'ai dit, mais je m'en souviens déjà plus. Et ses enfants avaient des noms vraiment qui étaient attachés à Dieu, etc. Mais il avait pas l'ADN. Il avait pas la généalogie. Il était pas de cœur. C'est important. Faisons toujours attention. Et vous savez ce que dit la Bible? On reconnaît l'arbre à ses fruits. À ses fruits. Donc attention, avant de juger si quelqu'un est vraiment Seigneur, regardez ses fruits. Et les fruits de l'esprit, alors on les a pas tous, hein, mais il faut un minimum quand même. Hein. Il faut un minimum. On pourra revenir là-dessus une autre fois, mais c'est important. Parce que vous voyez, en fait, celui qui a fait le plus d'embêtements à Néhémie, c'est celui qui se disait juif, qui avait ses relations familiales bien enracinées dans le peuple juif, et il lui a pourri la vie pendant tout son séjour. Et on verra encore après. Au chapitre 8, c'est la lecture publique de la loi par Esdras. C'est là qu'on retrouve notre Esdras, donc le livre d'avant. Les Lévites vont expliquer, alors certains commentateurs disent ils ont traduit en araméen, parce que beaucoup ne parlaient plus beaucoup l'hébreu, peut-être. Les gens, on remarque qu'ils pleurent à l'écoute des commandements de Dieu. Ah, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Enfin non, en fait, ils pleurent parce qu'ils se rendent compte qu'ils en sont loin, loin, loin de ce que Dieu avait demandé. C'est bon signe, mais ça suffit pas. La loi, comme dit Paul, hein, nous montre à quel point on est pécheur. Donc c'est pas très réjouissant de lire la loi, effectivement. Mais Esdras lui dit, réjouissez-vous, car c'est un jour sacré pour notre Seigneur. Et il va dire un verset qu'on connaît tous par cœur, qu'on a tous chanté, c'est la 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 la, la joie du Seigneur est votre force. La joie. Et alors, ils disent qu'ils étaient dans la joie, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ah, la joie, c'est pas seulement celle qui découle des bienfaits de Dieu, son aide, sa bénédiction et sa présence. Mais la joie, la vraie joie du chrétien, celle qui nous donne la force, c'est celle qui vient de l'obéissance à sa parole. Se réjouir d'entendre et de faire sa volonté. Et dans notre vie, nos responsabilités en tant que parents, en tant qu'élèves, en tant qu'employés, leaders, responsables d'un service, d'un ministère, qu'est-ce qui nous apporte la vraie joie? Je parle de la joie qui nous donne de la force. Je parle pas de la joie, on est heureux comme ça. La joie qui nous donne de la force. Et je crois que c'est justement de faire de tout notre cœur ce que le Seigneur nous demande. Ça, ça nous donne une joie qui nous donne de la force. Parce qu'il y a différentes sortes de joie. Hein. La joie, je suis content, il fait beau. Il y a la joie, tiens, mes enfants ont réussi leurs examens, je suis content. Enfin, il y a toutes sortes de joies. Mais la joie qui nous donne de la force, en tant que chrétien, c'est de faire de tout notre cœur ce que le Seigneur nous demande. Ça nous permet de surmonter les oppositions, les difficultés, de garder notre dynamisme et notre force. Faire ce que Jésus avait fait, aurait fait à notre place. Hein, on dit toujours ça. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ? Et c'est une bonne recette, cette joie d'obéir. Parce que c'est une recette contre l'amertume, la passivité, la déception et le fait d'être blasé. Vous savez, s'il y a un truc que je supporte pas, c'est qu'un chrétien soit blasé. Et pourtant, c'est ce que le diable veut. Croyez-moi, lui, il cherche à vous blaser. Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Ben oui, je le sais depuis longtemps. Oh, puis ce visiteur, il a encore prêché sur la crucifixion et la résurrection de Jésus. Encore. Aïe, 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 aïe. Non! Si on en est là, ça va pas. Ça veut dire qu'on n'a plus notre joie à entendre et à faire la volonté de Dieu. Et pourquoi souvent dans les ministères aussi? Ça peut être vrai dans votre travail aussi. Pourquoi est-ce qu'on trouve des gens remplis d'amertume? De passivité? Oh, ça vaut pas le coup. T'es un petit jeune, toi. Oh, tu sais, Christian, tu verras quand tu auras 30 ans de ministère, 40 ans de ministère, tout ça, ça te passera au-dessus de la tête. Oh, quelle horreur! Moi, vous savez, je me réjouis quand je vois des pasteurs de 75, 80 ans qui sont, waouh! Vous vous souvenez du vieux monsieur qui était venu prêcher une fois? Ah, vous l'avez tous aimé, les jeunes, hein? Waouh! Il bouillonnait. Vous pensez qu'il a jamais eu de difficulté? Vous croyez que tout a été rose pour lui? Non. Mais il était pas blasé. Il avait encore la joie d'entendre et de faire la volonté de Dieu. Et c'est ça qui nous guérit contre les blessures, contre l'amertume, etc. J'ai longtemps réfléchi à ça parce que c'est Dan Snead. Vous connaissez tous un peu Dan Snead. J'avais traduit pour lui pendant une semaine et puis bon, c'est vrai, paraît-il que je suis assez dynamique. Et il m'avait dit, mais avec tout ce que vous avez vécu dans le ministère, comment est-ce que vous faites pour être comme ça? Et je me suis dit, je sais pas, j'ai jamais réfléchi. Et c'est en faisant ça, je me suis dit, mais oui. Si notre plus grande joie, c'est de faire ce que Dieu nous demande, même si on commet des erreurs, et on en a commis, notre joie, elle vient de là. Je fais ce que Dieu me demande. Et waouh! Je sais qu'il est content. Oh, je me suis peut-être mal débrouillée, mais je ferai mieux la prochaine fois, hein? Et on est tous comme ça. Vous vous êtes peut-être mal débrouillé, mais vous ferez mieux la prochaine fois. Faites ce que Dieu vous demande. Vous n'êtes pas bien arrivé, ça fait rien. La prochaine fois, vous y arriverez mieux. Et on y va. Et on a la joie de faire ce que Dieu nous demande. Et on n'est jamais blasé. Et moi, je prie pour que Christian et sa femme soient jamais blasés. Qu'à 90 ans, ils soient, waouh! Hein? Même s'ils sont suisses. Ils seront, waouh! Non, je suis méchante, hein. Voilà, ma nourriture, Jésus disait, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce qui nous maintient en vie, ce qui nous donne du ressort, c'est pas l'exubérance passagère. Ça, c'est pas la joie. On ne peut avoir des exubérances passagères et c'est pas mal du tout, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui va nous donner la force de résister à l'amertume et tout ça. Et du coup, ça vaut le coup de se poser la question. Est-ce que une des causes pour lesquelles j'ai du mal à me réjouir dans le Seigneur, c'est pas ça? Ça vaut le coup de se poser la question. Si vous vous sentez dans l'amertume, dans la passivité, un peu blasé, déçu, ouais, bon, je connais. Hein, est-ce que c'est pas une des causes? Oh, il y en a d'autres causes, hein, attention. Je veux pas être systématique, mais est-ce que c'est pas une des causes? Je suis blasé, déçu, amer, je n'ai pas de ressort spirituel. Est-ce que c'est pas une des causes? Est-ce que vous avez perdu cette joie qui découle de faire ce que Dieu me demande de tout mon cœur? Pensez-y. Ensuite, ils vont rétablir la fête des huttes. Et là, c'est des grandes réjouissances. Ils vont rappeler la bénédiction de Dieu. Ça aussi, c'est une cause de joie. Rappeler les bénédictions de Dieu dans notre vie. La fête des huttes, ça rappelait qu'ils ont été dans le désert. Dieu les avait sortis d'Égypte. Ils ont vécu dans des huttes. Ils étaient de passage sur terre, etc. On pourra revenir ça plus tard. Néhémie, chapitre 9. Là, ils vont rentrer dans une période de jeûne et de confession de leurs péchés. Vous voyez, Néhémie, il est vachement systématique, hein, dans son plan d'action pour son peuple. Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait avec nous. Hein, il nous conduit d'une étape à une autre. Et là, il va les conduire dans la confession de leurs péchés et des fautes de leurs pères. Pourquoi? Parce qu'on est solidaire avec les générations d'avant. On est solidaire avec les péchés de nos parents, nos arrière-grands-parents, etc. Parce qu'on fait partie de la même famille. Et on est dans le même pays. On est solidaire. Il va faire une prière solennelle à haute voix C'est la plus longue de la Bible, entre parenthèses, qui va rappeler la fidélité, la bonté, la puissance de Dieu dans l'histoire du peuple depuis Abraham. Il va remonter loin, hein, malgré l'infidélité et la désobéissance du peuple. Il y a les deux. Seigneur, tu as été fidèle, nous on a été rebelles. Seigneur, tu as été bon, tu nous as bénis, nous on a fait ceci et cela. Mais c'est bien de se rappeler des deux. Seigneur, nous on va vraiment, on gaffe. On tombe et on retombe, mais toi tu restes fidèle. Waouh, ça c'est un encouragement, hein, quand ça va pas, de se dire Seigneur, j'ai gaffé, j'ai pas bien fait, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. J'ai tout entendu sur Néhémie et puis voilà, arrivé là, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait. Ça fait rien. Le Seigneur est là, il vous pardonne. Si on reconnaît celui qui cache ses transgressions, ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc on a la grâce, la miséricorde de Dieu. Chapitre 10, il va établir une convention avec Dieu. Ça c'est incroyable. Il va faire signer les princes, les lévites et les prêtres. Il va mettre son sceau, Néhémie. Le sceau du Saint-Esprit, tiens. Encore une comparaison. Et il va encourager à ce que les gens s'engagent devant les hommes et devant Dieu. Alors à quoi ils vont s'engager dans cette convention? Suivre la loi de Dieu, mettre en pratique ses commandements, en ce qui concerne particulièrement les mariages avec les non-juifs. Alors pourquoi ils étaient si à cheval là-dessus? Bah parce que c'était la mère qui élevait les enfants. Elle n'allait pas au travail dans ce temps-là. Et du coup, elle transmettait la religion. Les pères ne s'occupaient des garçons à partir de 12 ans. Mais sinon, c'est la mère qui transmettait la religion. Donc s'ils se mariaient avec quelqu'un qui n'adorait pas Dieu, ou quelqu'un qui adorait les Baals, ou je ne sais quoi, à l'époque, c'était les Astarté, etc., elle transmettait ce qu'elle savait. Et alors c'est dans Néhémie, certains ne parlaient même plus l'hébreu. Ils parlaient l'asdodien, etc. C'est ce que dit Néhémie, d'ailleurs. Donc, il y avait un problème pour les mariages. Le respect du sabbat, les remises de dettes la septième année, les dons pour les sacrifices, les premiers fruits de la dîme et de la terre. Ils promettent, en gros, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Qu'est-ce que c'est dans l'optique qu'on a prise là avec Néhémie? Quel était ce temple, cette maison de notre Dieu? C'est le symbole de notre esprit. Ça, c'est vivant. Ils ont reconstruit la muraille, symbole de l'âme, mais leur esprit, il était déjà là, hein, quand Néhémie est arrivé. Et on n'abandonnera pas la maison de notre Dieu. Ça veut dire on va veiller à ce que la vie spirituelle du peuple puisse fonctionner dans de bonnes conditions et qu'elle ne soit pas négligée. Parce que nous, ça nous dit rien, hein, le bois, la dîme, les dîmes végétales, les machins, bon, ça nous parle plus, hein. Mais en gros, ça veut dire ça. On va veiller à ce que la vie spirituelle du peuple puisse fonctionner dans de bonnes conditions et qu'elle ne soit pas négligée. Est-ce qu'on fait tout pour que notre vie spirituelle fonctionne dans de bonnes conditions? En veillant aussi à ce qui rentre dans la ville et à ce qui en sort. Et c'est la question que je me suis posée hier soir en travaillant. Est-ce que je veille à la vie spirituelle de ma propre vie? Est-ce que je veille à ce qu'elle fonctionne dans de bonnes conditions, qu'elle soit pas parasitée par tout un tas d'autres choses? C'est la question que je me suis posée. Chapitre 11. Une famille sur 10 vient habiter à Jérusalem. C'est soit des volontaires, soit par tirage au sort. Ils sont bénis par le peuple. La ville était trop peu habitée. Il faut de la vie à l'intérieur des murailles. C'est pas tout de reconstruire, hein. Il faut qu'il y ait de la vie. Chapitre 12. Il va y avoir la dédicace de cette muraille avec tous les lévites, les prêtres, les chantres du pays. Il y a une joie extraordinaire de la louange, des chants, de la musique. La Bible dit que ça s'entendait de très loin. Je crois que c'est 12:43, si je me trompe pas. Forcément, hein, il y avait quand même du monde. 12:43. Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices, se livraient aux réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, heureusement. Hein, et on entendait de loin la joie de Jérusalem. Ça devait être beau, hein. Et je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant ce texte, il a fait deux groupes qui montent sur les murailles, à droite Esdras, à gauche avec Néhémie. Et ils vont se retrouver les deux, pardon, sur le parvis du temple. Et vous avez remarqué dans ce texte l'énumération des différentes portes et les lieux de la muraille. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? Il dit, ils sont passés par la porte de ceci, droit devant, ils montèrent sur les marches de la ville de David, la porte des eaux vers l'est, le songo au cœur. Ça vous rappelle rien? Quand Néhémie, tout seul la nuit, est venu avec sa monture, on savait pas si c'était un âne ou quoi, il est venu tout seul, il a énuméré tout ce qui était détruit, il a fait le diagnostic des murailles, il est venu de nuit tout seul, dans la tristesse, dans la honte. Vous vous souvenez comme c'était lourd pour lui de faire ce diagnostic? Ah! Oh, Oh, cette muraille détruite avec des brèches partout. Et la porte de ceci, et la porte du fumier, et la porte des brebis, et la porte des eaux. Oh, Seigneur. Et voilà que il revient là, avec deux groupes énormes, qui chantent, qui dansent, ils refont, et ils repassent par toutes ces portes. On purifie, on loue, on consacre à l'Éternel. Alors que la fois passée, on était là pour constater les dégâts opérés par l'ennemi, prier et réfléchir aux réparations nécessaires. Ça vous est jamais arrivé dans votre vie, des circonstances comme ça, où Dieu vous fait repasser dans des lieux, ou par des circonstances où on a vécu des choses très difficiles. Alors là, ceux qui l'ont vécu, je suis sûre que ça va faire tilt dans votre tête. Mais j'ai remarqué que Dieu avait un plaisir particulier, je dirais pas un malin plaisir, un plaisir particulier à nous faire repasser par des lieux ou des circonstances où on a souffert, mais nous y faire repasser dans un contexte de joie, de bénédiction. Ah, il y en a qui hochent la tête, je suis pas toute seule, hein. Mais ça, c'est fantastique. Là où vous avez souffert, il va vous renvoyer pour des circonstances fantastiques. Là où les gens ont été difficiles, il va vous y ramener pour quelque chose de fantastique, quelque chose de sympa et tout. Ça vous est déjà arrivé. Et ça, ça fait du bien. Vous savez ce que ça fait, ça? Ça nous guérit. Ça nous guérit des mauvais souvenirs. Et ça, je l'ai vécu et je sais que c'est fantastique. Et Dieu a souvent cette tendance à nous faire repasser par des choses où on a souffert pour nous dire, tu vois, regarde le chemin parcouru. Et ça vaut le coup, ça. Enfin, ceux qui l'ont vécu le savent. Si vous ne l'avez pas encore vécu, vous repenserez à moi le jour où vous le vivrez. Et pourquoi? Parce qu'il nous donne un diadème au lieu de la cendre. Rappelez-vous de ces versets. Ésaïe 61.3. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il était là, ce pauvre Néhémie, honteux et écœuré de voir toutes ces murailles brisées. Tous les dégâts de l'ennemi. Oh, l'ennemi, il a cassé ça. Et là, il repasse. Tout est reconstruit. Les chantres sont là, les portiers, et à la chorale, il y a tout le monde est là, tout le monde chante, tout le monde glorifie Dieu. Waouh, on entend ça de loin. Ah, les circonstances ont changé, hein. Une huile de joie au lieu du deuil, un diadème au lieu de la cendre, des vêtements de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça, Dieu sait faire. Et puis le psaume 126, verset 5, ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec des chants d'allégresse. Toujours le même principe, hein. Et si vous êtes aujourd'hui dans la cendre, les larmes, à constater les dégâts que l'ennemi a fait dans votre vie, c'est possible, hein? Alors, faites comme Néhémie, évaluez les dégâts, faites le diagnostic, puis remontez les manches, remettez-vous à la construction, parce que bientôt, Dieu va vous aider à vous reconstruire, et vous allez moissonner avec des cris de joie. Donc, ce que vous vivez de difficile en ce moment, Dieu va réparer. Dans le chapitre 13, il fait la séparation d'Israël avec les étrangers. L'histoire marquante, évidemment, c'est celle de Tobija. Néhémie est retourné quelque temps auprès du roi de Perse. On ne sait pas trop, peut-être un an. Mais il a été 12 ans sur place, hein, quand même. Et puis, voilà qu'il revient à Jérusalem. Quand il part, tout est bien. Hein. Tout a été restauré, du haut en bas. Et qu'est-ce qu'il découvre quand il rentre de Perse? Non, mais ça, c'est pas croyable. Hein. C'est choquant. Le grand prêtre, responsable des salles du temple, il a rien trouvé de mieux que de réserver des salles pour Tobija. Vous allez me dire, oh, puis alors? Il habite là, puis c'est tout. Non, mais c'est terrible! Ces salles-là étaient réservées aux ressources du temple. Pour payer les lévites, pour les faire vivre, c'est-à-dire, bon, ils payaient en nature, hein. Des légumes, du blé, etc. Et pire que ça, vous savez ce qu'on stockait dans ces salles-là, normalement? L'encens. Et l'encens, c'est le symbole de quoi? La prière et l'adoration à Dieu. Ça veut dire que Monsieur Tobija, cette cinquième colonne ignoble qui a pourri la vie de Néhémie pendant des années, on lui réserve au milieu du temple les salles où on devrait mettre les ressources de la louange, de l'adoration et du ministère. Hein, je transpose. Vous trouvez ça normal? C'est grave. Un espace qui était destiné aux offrandes, à l'encens, aux ustensiles, à la dîme, blé, vin, huile, prélevé pour les besoins des prêtres, des lévites, des chantres et des portiers. Et alors, j'appris que les parts des lévites n'avaient pas été livrées, que les lévites et les chantres, chargés du service, avaient fui chacun dans son champ. Ben tiens, toutes leurs ressources étaient, on ne sait pas où elles étaient, il n'y avait plus de place pour les stocker. Pourquoi? Parce que Monsieur Tobija prenait la place, la cinquième colonne, celui qui n'avait pas l'ADN du peuple de Dieu. On lui laisse toute cette place. là où il y avait les ressources du peuple, les ressources des ministères, les ressources de l'adoration et de la louange. Vous vous rendez compte? Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Voilà ce que l'ennemi cherche à faire dans nos vies, dans nos familles et dans nos églises. Occuper la place qui doit être attribuée aux ressources, à nos ressources spirituelles. Attention, c'est grave. Du coup, personne ne donnait plus rien, puisque de toute façon, où est-ce qu'on pouvait le stocker? Donc les pauvres, ils étaient partis refaire leur champ, évidemment. Aujourd'hui, on peut travailler avec son ordinateur chez soi. À l'époque, si tu veux survivre, ben, faut aller cultiver ton champ, et c'était pas au milieu de Jérusalem, c'était à des kilomètres. Tobijah, on l'a vu, n'avait pas l'ADN du peuple de Dieu. Il n'avait pas sa place dans le temple. Il avait beau avoir des liens familiaux ou amicaux, ça ne remplace pas l'ADN. Tobijah était lié à Sanballat, païen, ennemi du peuple. Ce qui les réunissait, c'était la jalousie, le désir de contrôler, la peur de voir leur pouvoir limité par Néhémie et la reconstruction de Jérusalem. Tobijah prend la place des ustensiles et de l'encens qui sert à l'adoration.
J'aimerais que tu reviennes là-dessus dimanche prochain parce que tu risques de cavaler.
Oui, je cavale.
Et je crois que c'est très très important. Donc je préfère te laisser encore un dimanche, enfin un moitié de dimanche.
Oui, là il n'y aura pas, il y a juste un petit peu ça.